Et on va s'intéresser à une initiative qui nous a semblé, qui nous semble très intéressante. Ce sont des économistes, des chercheurs, toute une bande de chercheurs et d'économistes qui lancent une pétition aujourd'hui même, ce 27 mars, jeudi 27 mars 2008, une pétition intitulée « Spéculation et crise, ça suffit ». Et ils ont envie de vous faire connaître leurs idées, pourquoi cette pétition. Et cette pétition, vous pouvez la découvrir, elle est lancée aujourd'hui, dans une série de médias, français mais européens aussi. Les chercheurs et les économistes qui la lancent sont des chercheurs français et européens, de tout un tas de pays européens. Et vous pouvez tout de suite aller la voir sur www.stop-finance.org www.stop-finance.org. Voilà, donc ça dit assez bien ce que ça, l'intention. Stopfinance.org, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que spéculation et crise, ça suffit. C'est ce que le cri que lancent ces chercheurs qui, au bout de 25 ans de déréglementation financière, au bout d'une série de crises et de cracks et de toutes sortes, on entre dans un nouvel cycle de crise, disent ça suffit, maintenant on a vu les résultats de tout ça sur 25 ans, et nous modestement, mais quand même également, aussi à la base du SFI, on a vu, on a montré, modestement, mais quand même, les résultats de tout cela, c'est-à-dire eh ben, tout un tas d'incidents sur la vie quotidienne, les délocalisations, les salaires, la destruction, tout simplement, des activités économiques traditionnelles, parce que cette spéculation se fait au détriment de la société. Et cette spéculation libre, mais se fait au détriment de la société. C'est ce que ces 25 années ont permis de montrer. Après tout, il y a 25 ans, mais penser que c'était lutter contre cela, c'était purement idéologique, comme on disait. Ben, aujourd'hui, on a les résultats. Et ces économistes disent ben stop, et ils vont dire pourquoi. Alors, pourquoi? Eh bien, c'est Frédéric Lordon, que vous avez déjà repéré dans les émissions de la Face et J'y suis, que vous repérez les textes dans le monde diplomatique, un peu partout, qui s'y colle aujourd'hui et qui va nous expliquer pourquoi, eh bien, il faut donner un coup d'arrêt à cette déréglementation, et notamment en visant l'article 56 du traité de Lisbonne, qui interdit toute restriction aux mouvements financiers. Et ce que veulent ces économistes, eh bien, c'est justement des restrictions. Ce mouvement financier est 1368 à, c'est un peu jouir sans entrave. Jouir, accumuler, c'est la cupidité dont il s'agit de jouir. Eh bien, ces économistes veulent des entraves, et ils pensent qu'ainsi on pourrait peut-être limiter les dégâts. Alors voilà, on est avec Frédéric Lordon pendant une heure. Alors, professeur Lordon,
oui, elle
voudrait avoir des explications. Qu'est-ce que je lis et qu'est-ce que j'entends? J'entends bourrasque financière, j'entends embellie boursière, j'entends tempête sur les valeurs. Alors je me dis que la finance est comme la météo. Un, c'est naturel. Et deux, j'y peux rien. Et si c'est vraiment grave, eh ben on me parle de cyclone, de raz-de-marée, et dans ces cas-là, ben, j'y peux rien non plus, on envoie les secours et on envoie les pompiers. C'est comme ça qu'un ignare comme moi perçoit les crises financières. Je sais bien que l'appât du gain peut conduire à la folie. Je mesure toute l'immoralité, et je suis contre, bien sûr, puisque c'est immoral.
Il faut être vertueux.
Voilà, moi je suis très vertueux, donc je mesure toute l'immoralité de ces spéculateurs et de ces actionnaires, mais il y a toujours quand même ces efforts qui ont été faits pour moraliser le capital et le capitalisme, hein, de faire de l'éthique, d'essayer de... Est-ce que c'est ça la crise actuelle? Est-ce que c'est une affaire de morale?
Ah oui, ça c'est le. C'est le centre, c'est le centre de gravité du commentaire actuellement. Hein. Voilà. Ce que l'analyse en France produit de plus puissant que presque sur la crise financière, c'est que c'est un problème d'immoralité. En gros, le capitalisme est fou, je mets entre guillemets, il est opaque et il est immoral. La thèse implicite étant, donnons-lui un peu de transcène, rendons-le transparent et vertueux, et il faut rentrer dans l'ordre. Et là, dans ce registre, il y a un sommet qui a été atteint récemment par Monsieur Michel Rocard, malheureusement il faut le citer, dans un article qui ne pouvait que faire les délices d'une certaine presse. Malheureusement, je ne pense pas qu'on l'apprécie comme il faut ici. Hein. Un article qui s'intitule « Tous derrière Laurence Parisot ».
Ah.
C'est étonnant tout de même, hein, d'ailleurs, un leader socialiste qui nous enjoint de nous ranger tous derrière la présidente du MEDEF. Moi, je trouve que c'est un document brillant, hein, parce que en si peu de mots, réaliser la synthèse presque exhaustive de tout un air du temps, c'est tout de même une sacrée performance. Alors, quelle est la conclusion du texte de M. Rocard? Je la lis. Pour moi, la cause est entendue, le capitalisme sombre sous l'immoralité. Alors maintenant, je vous propose de vous donner la mienne, hein, de conclusion. Pour moi, la cause est entendue, la pensée social-démocrate sombre sous l'indigence. Bon. Parce que il y a quand même quelque chose qui est extraordinaire, c'est cette résistance à la lucidité. Je veux dire, il faut le faire de penser aussi mal, quand même, hein, lorsque la réalité financière nous offre tous les jours son spectacle chatoyant, qui met tout à nu, hein, quand même, qui met tout en évidence, il suffit d'ouvrir les yeux. Alors il faudrait expliquer à M. Rocard que non, ça n'est pas une affaire de morale. C'est une affaire de structure. Alors on va le lui dire un peu plus simplement. C'est une affaire de situation. Et on pourrait même vous proposer une expérience de pensée. Si vous lâchez 50 légionnaires dans un bordel militaire de campagne, il ne faut pas vous étonner ensuite de ne pas les retrouver tous assis en rond en train de lire la comtesse de Ségur. Ceci ne se produira pas. N'est-ce pas? Parce qu'il y a une situation et elle persévère dans son être et elle est parfaitement conforme à son concept. Il en va exactement de même de la finance. Pas plus il me faut attendre de nos amis légionnaires qui se mettent à jouer au rami ou à la canasta, il me faut attendre d'opérateurs capitalistes dans le monde d'aujourd'hui qui renoncent à saisir les immenses profits qui sont mis à leur disposition là sous leur nez par une situation qui a été créée par les structures de la finance libéralisée. Et le fait est que la rentabilité financière est la forme la plus addictive du profit capitaliste, parce que c'est la plus explosive. C'est une rentabilité instantanée, ou presque, et c'est une rentabilité qui est sans commune mesure avec les misérables gains de l'économie réelle. Donc vous pouvez sermonner, chapitrer, moraliser, ceci ne se produira pas, n'est-ce pas? Donc voilà, et ça se produira d'autant moins que... Outre la force intrinsèque de la cupidité, qui est immense, il y a dans la finance une force supplémentaire, celle de la concurrence, et qui n'est pas moins grande. Et ça, il faut bien avoir ça en tête, c'est pas un monde paisible, la finance. Hein. La concurrence y est sauvage. Si donc de nouvelles opportunités de profit se présentent, quelles qu'elles soient, que ce soit des valeurs internet ou des dérivés de subprime, il faut être bien certain que tous vont s'y ruer sauvagement. Et ne pas y aller, surtout quand il y a une belle bulle. Mais ce serait une faute professionnelle que personne ne peut se permettre, parce que votre rentabilité financière relative, comparée à celle des autres, hein, c'est un monde de l'évaluation comparative permanent, hein, la finance. Votre rentabilité financière relative sera moins bonne, vous allez perdre les mandats de gestion, vous allez perdre des parts de marché, et à la fin, vos actionnaires vont finir par vous faire la tronche. Et donc, oui, il y a des opérateurs de finance qui ne sont pas si bêtes qu'on croit, il y en a même qui sont assez lucides. Ils voient très bien, et parfois même de bonne heure, que les engouements collectifs de la finance peuvent conduire à des situations potentiellement désastreuses, avec des accumulations de risques que plus personne ne pourra maîtriser. Mais ces gens-là ont beau être lucides, ils n'en sont pas moins obligés de suivre le mouvement et au milieu du troupeau. Parce que s'il y a des profits à capter, il faut y aller. Et tant pis si tout finira à mal. Alors ça, c'est un constat qui est quand même un peu plus inquiétant. Parce que même s'il se trouve des agents individuellement lucides, rationnels au sein de la finance, ils n'en seront pas moins emportés par des forces beaucoup plus puissantes qu'eux, ce sont les forces de la concurrence. Et même contre leur gré, ils devront participer à la frénésie collective. Alors tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que l'hypothèse du coup de folie ou de la moralité ou n'importe quoi d'autre ne peut pas être la bonne, puisque la folie est le régime permanent et nécessaire de la finance. Et tout aussi nécessairement, au bout de la folie, il y a la crise et les pots cassés.
L'éthique vaut aussi pour le capitalisme. Et vous savez à quel point j'ai trouvé tout à fait intéressant, la tribune de Michel Rocard dans Le Monde, rappelant que les penseurs du libéralisme étaient également des moralistes.
Cerné de col blanc d'un titi. Ils veulent mon âme, j'ai mis mon canif à portée de main. Seul gâteau qui prépare, pas de pas pour toi et moi. Je garde au sommet des espoirs, je les fonce dans le tas.
Et je voudrais juste vous dire une chose. Ceux qui sont à l'origine de cette tourmente financière, ceux qui ont conçu les surprimes et élaboré tous les mécanismes ensuite qui consistaient à cacher le risque, ceux-là ne sont pas des libéraux. Car le libéralisme ne peut pas se faire sans la transparence et la connaissance claire des règles du jeu.
Briseur de rêve, c'est plus leur belle. On termine mon ciel. Je passe à l'attaque et demain. Et demain. Je passe à l'attaque et demain.
La douce voix de Laurence Parisot dans La Base Je Suis, qui rend hommage à Michel Rocard, le capitalisme et l'éthique. Les capitalistes ont-ils nom de l'éthique? C'est une vieille question. Et c'est possible, mais c'est autant que les tigres sont capables de manger de la salade ou de manger des plats au vinaigre. Il y a des tigres qui vous disent ça, qui disent, oh, ne vous inquiétez pas, moi je... Oh non, non, moi j'adore les plats au vinaigre. Mais enfin bon, c'est possible, mais ne leur laissez quand même pas vos enfants à garder pour autant. Méfiez-vous, et méfiez-vous d'autant plus que si vous écoutez Frédéric Lordon, avec qui nous trouvons aujourd'hui, c'était économiste et philosophe, des philosophes aussi, Frédéric Lordon, et il n'est pas le seul à avoir concocté cette pétition internationale, en tout cas européenne, toute une série donc de chercheurs et d'économistes émérites ont signé cette pétition qui est lancée aujourd'hui même à travers le monde, à travers l'Europe. Je rappelle, vous pouvez en prendre connaissance sur le site web www.stop-finance.org et elle est publiée dans toute une série de journaux, de publications, d'Italie Zeitung en Allemagne, une manifesto en Italie, Publico en Espagne, Tribuna Robotnica en Pologne, Flamand en Suède, la Pacifique que vous écoutez actuellement, également dans Politis, le monde diplomatique, l'humanité, Marianne.fr mise en ligne tout à l'heure. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en train de naître sous vos yeux et qui éclaire judicieusement, peut-il le dire, le bon professeur Lordon. Quels sont les dégâts, puisque c'est ça qui vous mobilise, les dégâts causés par cette finance sur l'économie?
Alors, les dégâts, on va commencer à en prendre la mesure dans pas très longtemps. Ils tiennent essentiellement au fait que la crise présente se produit dans un compartiment très particulier du marché qu'on appelle le marché de crédit. Ce sont donc les institutions prêteuses qui sont directement affectés par les événements du moment. Ça, c'est tout à fait embêtant parce que lorsque les banques et les compagnies financières du fait de leur fragilisation consécutivement à l'impact du choc, ne sont plus en état de prêter, ou plus exactement, commencent à réduire la voilure et à sélectionner de manière tout à fait drastique les candidats à l'emprunt. L'économie cesse d'être irriguée par un flux de nouveaux crédits qui est absolument indispensable pour reconduire les opérations productives, permettre aux ménages de faire l'acquisition de biens durables, etc., etc. Et même dans des économies comme l'économie américaine ou l'économie anglaise, les ménages se trouvent en difficulté puisqu'ils ne peuvent plus emprunter, alors même que d'habitude ça les aide quasiment à boucler leur fin de mois. C'est-à-dire les pressions concurrentielles qui pèsent sur les salaires du fait de la mondialisation et de la mise en concurrence généralisée sont telles que les ménages, avec le revenu du travail, ne sont plus en situation de faire face à leurs dépenses mais les plus courantes, c'est-à-dire le logement, l'habillement, la nourriture, etc., etc. Auquel cas, il n'y a plus d'autre solution que l'emprunt.
Alors ?
Alors, eh bien, si l'emprunt est devenu la béquille quasi permanente de l'économie, parce qu'il faut bien solvabiliser les dépenses des ménages et que le capital ne peut pas se passer pour l'heure de ses débouchés intérieurs, et si d'autre part les institutions qui produisent ou qui mettent à disposition cette béquille permanente ne sont plus en état de le faire, alors on comprend bien que la croissance ne va pas s'en tirer sans dégâts. Si les ménages, et puis aussi les entreprises, bien sûr, ne peuvent plus emprunter, on a là toute une pléiade d'agents qui ne pourront plus dépenser, par conséquent la demande va baisser, la croissance aussi, et l'emploi de même.
Mais ça, vous décrivez la crise américaine, là. C'est ça?
Oui, là, je décris la crise américaine, je décris un enchaînement de crise tel qu'il va frapper préférentiellement les économies anglo-saxonnes. Mais il ne faut pas se faire d'illusion, même si l'économie française, dans ses structures, n'est pas allée aussi loin dans la financiarisation, et notamment dans la solvabilisation financière des dépenses des ménages que les économies anglo-saxonnes, on en souffrira du contre-coup, d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, il y a un certain nombre de ménages qui, il y a 8 mois encore, étaient éligibles au crédit immobilier, par exemple, qui se sont vus refuser l'emprunt, au motif, non, je ne suis pas sûr qu'on ait allégué quelques motifs que ce soit, mais la véritable raison, bien sûr, c'est que les banques françaises également sont allées jouer sur les marchés des produits dérivés de subprime, et les banques françaises également ont encaissé de sacrés moins-values, la plus célèbre d'entre elles étant la Société Générale, mais il n'y a pas qu'elle, hein. Et toute française qu'elle soit, la Société Générale réagit comme toutes les banques dans ce genre de situation.
Mais quand une banque s'effondre, qui paye?
Ah, alors là, ça c'est déjà une toute autre question. Parce que là, on était en train de parler du contre-coup, j'allais dire, quasiment à bas bruit de la crise. Réduction du crédit, diminution des emprunts, baisse des dépenses, etc., etc. Lorsqu'une banque tombe en faillite, là c'est une autre paire de manches, hein. C'est un événement d'une toute autre ampleur. Et alors là, évidemment, la question c'est qui règle l'ardoise. Bon. Et bien parti comme on est, je parierais volontiers pour le contribuable, quoi. Il semble qu'on y va tout droit. Le pays le plus viscéralement opposé à ce genre de solution, à savoir les États-Unis, est en train d'en prendre le chemin. Et ça s'est passé la semaine dernière. La semaine dernière, s'est passé un événement quand même assez important. La 5e banque d'affaires américaine, qui s'appelle Bear Stearns, a été l'objet de ce qu'on appelle une panique bancaire. C'est-à-dire qu'il y a eu un doute tel sur sa situation financière que tous ceux qui y avaient des avoirs ont couru pour les retirer. Il est évident qu'une banque ne peut pas résister très longtemps à une ruée de cette sorte. Quasiment chaos technique et au bord de la faillite, Bear Stearns ne doit sa survie qu'au rachat par une autre banque, J.P. Morgan, avec le concours de la Réserve fédérale, et moyennant une clause un petit peu particulière qu'a obtenue J.P. Morgan de la Réserve fédérale, à savoir que la dite Réserve fédérale, la Banque centrale américaine, je le rappelle, prendrait en pension pour 30 milliards d'actifs pourris de Bear Stearns. Avec au terme de cette prise en pension, une surclause selon laquelle si jamais la Réserve fédérale devait enregistrer des moins-values sur ses actifs pourris, c'est le Trésor, c'est-à-dire le contribuable américain, qui les endosserait in fine. Or, de l'avis général, les actifs en question valent à peine plus que zéro. Conséquence, le contribuable américain est bien parti pour casquer 30 milliards. Et ça n'est que le début. Et donc, là, voilà, pendant 10 mois quasiment, la question qui va régler la note était restée un petit peu floue. Maintenant, les choses commencent à se préciser. Là, on commence à voir se dessiner cette affaire de manière un petit peu plus nette.
Ça peut arriver en France.
L'exposition des banques françaises est a priori moins forte que celle de leurs consoeurs américaines. Mais très franchement, qui peut répondre à cette question? Pas moi, hein. J'ai tout de même le souvenir que, au mois d'août, une semaine après avoir juré ses grands dieux que sa banque était dans un état absolument nickel, BNP Paribas a dû fermer d'urgence deux de ses fonds d'investissement particulièrement agressifs et particulièrement chargés en subprime. J'ai le souvenir également que jusqu'au début de l'année, M. Daniel Bouton, président de la Société Générale, nous certifiait que certes sa banque était un peu exposée sur les subprimes, mais à hauteur de pas plus de 400 millions d'euros. Et on connaît la suite. L'exposition totale était de 50 milliards. Et c'est là évidemment toute la question et qui travaille profondément la communauté financière et l'angoisse sérieusement. Des estimations ont été faites sur l'ampleur prévisible de la totalité des pertes consécutives à la crise des subprimes. Alors, comme toujours, ces estimations valent ce qu'elles valent. On les fait avec des méthodes qui recourent, parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement, à des hypothèses plus ou moins héroïques, mais ça donne au moins une certaine indication. Le montant de ces estimations, tel qu'il a été livré pour la dernière réunion du G7 il y a quelques semaines, s'établissait à 400 milliards de dollars de pertes. Or, la communauté des banques internationales n'a pour l'instant révélé que 120 milliards de dollars de pertes. Moralité, reste 280 milliards dans la nature, dont nous allons avoir l'annonce comme un goutte à goutte dans les mois qui viennent. Qui pourrait dire qu'une banque française est à l'abri d'une monumentale difficulté sur les subprimes? Personne ne pourrait le dire ni l'exclure.
Pour l'usine Over de Dijon, la décision est définitive, c'est le chômage qui attend tous les employés.
L'usine Yoplait d'Ivry doit fermer ses portes au mois de juin, 130 emplois sont supprimés, près de 2600 suppressions d'emplois sur 4 sites, Sochaux, Mulhouse, Sept-Fonds et Lille. La pilule est amère.
Alors, la déréglementation financière est intervenue il y a 25 ans, c'est ça?
Oui.
Comment on faisait avant?
Ah, comment on faisait avant? Mais alors, c'est assez plaisant de répondre à cette question, parce que, d'une certaine manière, on pourrait dire ceci. Finalement, après la déréglementation financière, comment les entreprises se financent-elles? Eh bien, la réponse assez paradoxale serait... Elle se finance d'une manière qui n'est pas fondamentalement différente de ce qu'elle pratiquait il y a 30 ans. Pourquoi? Parce que finalement, il y a trois sortes de moyens pour les entreprises de se financer. Premier moyen, ce qu'on appelle l'autofinancement. Elles font du profit, elles le réinvestissent. Deuxième moyen, elles émettent des actions, qu'on appelle les fonds propres. Et c'est largement pour ça qu'on a fait la déréglementation financière. C'est-à-dire avec en tête l'idée que si on favorisait le développement de la bourse, on favorisait la possibilité pour les entreprises de lever ces fameux fonds propres qui sont supposés être le moyen de financement le moins coûteux pour les entreprises. Troisième moyen, les obligations. On peut émettre sur le marché financier des obligations. Et quatrième moyen, parce que je me suis un peu trompé sur le chiffre de départ, le crédit bancaire. Or, quelle est la situation véritable? Les entreprises, actuellement, se financent essentiellement par l'autofinancement, numéro 1, numéro 1 dans la série où je les ai énoncés, par l'émission d'obligations, numéro 3, et par le crédit bancaire, massivement, numéro 4, et les actions, à peine, ou presque. Donc c'est ça le paradoxe assez succulent de la déréglementation financière, c'est qu'elle a fait surgir des institutions incroyablement complexes, génératrices d'une formidable instabilité, mais pour, à la fin des fins, ne modifier que marginalement les moyens par lesquels les entreprises se financent.
Professeur.
Oui, merci beaucoup. Oui. En fait, non, hein, je ne suis pas formellement professeur. Un professeur, c'est quelqu'un qui a passé l'agrégation de sciences économiques.
Non, mais c'est le professeur de la base j'y suis.
Professeur de la base j'y suis. Oui. C'est une espèce d'équivalent fonctionnel du professeur Choron, quoi. C'est ça.
C'est n'importe qui. Mais une question de pas n'importe qui, c'est une question de Renaud Lambert. C'est pas n'importe qui.
Oui, il fallait accorder. Vous avez bien expliqué qui allait payer les pots cassés maintenant que tout part un petit peu en vrille autour de la crise qui est partie des subprimes. Mais ça nous intéresse aussi de savoir à qui ça a profité. Parce que si on a monté tout ce système spéculatif, et si vous nous expliquez que plus tard on en montrera un autre, et si on a monté tant, c'est peut-être parce qu'il y a des gens qui ont gagné certaines richesses à partir de tous ces échafaudages.
Ça s'est enrichi d'un bout à l'autre de la chaîne de l'industrie financière. Et évidemment, c'est la raison pour laquelle la bulle s'est poursuivie si longtemps. C'est parce qu'il y avait convergence objective d'intérêt à la soutenir et à la faire durer autant que possible. Qui s'enrichit ? Les courtiers en prêt immobilier. Les développeurs immobiliers eux-mêmes, ça va sans dire. Mais dans la chaîne financière, les courtiers, les banques qui accordent les prêts, les banques d'affaires qui, à partir de ces prêts et par les voies de la titrisation, fabriquent ce qu'on appelle les produits dérivés. Et puis toutes les institutions financières, alors, banques, fonds de pension, fonds mutuels, investisseurs institutionnels de toutes sortes, qui sont allés jouer sur ce marché des produits dérivés, et pendant tout le temps où ce marché était formidablement haussier, qui en ont tiré des plus-values absolument étincelantes. Et puis il n'y a pas que les institutions qui se sont enrichies, il y a également les hommes des institutions, puisque la finance carbure au bonus, c'est bien connu, et que tous ceux qui étaient en place sur ces créneaux les plus dynamiques de la finance en ont tiré des bonus absolument gargantuesques. Enfin, on oublie également, n'oublions pas nos chers actionnaires, puisque chaque année, les institutions financières gorgées de plus-values faites sur les produits dérivés de subprime affichaient des profits tous plus retentissants les uns que les autres. Cette excellente fortune a donné lieu à de larges distributions de dividendes, et évidemment, ce sont nos amis les actionnaires qui en ont profité.
Chaque jour, vous avez une espèce d'explosion, un spasme.
Toujours être là où ils sont. Avoir à sa portée les dernières nouvelles de marché du monde entier.
Vous avez le côté rationnel qui vous dit, ok, j'en viens, clôturons la position. Et puis là, le côté mauvais de soi-même qui vous dit, on reste dans la position, on augmente la taille de la position. Donc, pour le trader, en fait, une véritable travail personnel pour essayer en fait de domestiquer ces mauvaises positions.
Il est bullish, il est bearish, un chandelier bullish, une tendance bullish, ou une tendance bearish, une tendance baissière, etc.
Vous êtes plutôt bullish ou plutôt bearish?
Moi, je suis plutôt bearish sur le CAC.
Vous avez une espèce d'explosion, un spasme.
Donc la déréglementation financière dont vous nous avez expliqué qu'en termes de financement des entreprises, elle n'avait pas été aussi efficace que ça, elle aura quand même bénéficié à ces gens que vous nous décrivez, notamment les actionnaires.
Oui, c'est ça le charme particulier de la déréglementation financière, c'est que ça fait surgir une espèce de monstre institutionnel, enfin de complexe institutionnel absolument incroyable, qui a presque complètement perdu de vue sa fonction première, qui est de favoriser le financement de l'économie et de lui permettre d'obtenir des capitaux à moindre coût, pour vivre de manière quasiment autarcique et repliée sur elle-même. La finance parle à la finance, sans presque plus de considération pour les services qu'elle était supposée rendre à l'économie, et pas à elle-même. C'est ça le charme particulier de la manœuvre, quoi. Une manœuvre qui est complètement auto-justifiée. C'est assez intéressant d'ailleurs parce que la finance qui n'a que le mot de rentabilité à la bouche devrait être passée à la toise de ses propres critères. Alors bien sûr, c'est que la finance, que l'industrie financière dégorge de la rentabilité financière, ça c'est une trivialité, je veux dire, il n'y a pas besoin d'insister là-dessus. S'il faudrait questionner, ça serait plutôt ce que je vous appellerais sa rentabilité institutionnelle. Quel est le service que la finance est supposée rendre et qu'est-ce qu'elle consomme à l'entrée? Ce qu'elle consomme à l'entrée, c'est toute la liquidité qui se déverse. Et qu'est-ce qui en sort? Les flux financiers qui vont vers les entreprises pour les aider à se développer. Mais ces flux financiers, c'est à peine un filet d'eau comparé à l'énorme débit de la canalisation d'entrée. Donc la rentabilité institutionnelle, c'est-à-dire le rendement de la sphère financière comme institution, en tant qu'institution de financement de l'économie, ce rendement institutionnel est absolument misérable.
Alors face à ce cycle de crise depuis 20 ans, et tout ce que ça implique, que vous nous exposez, et toute la fragilisation que ça amène dans l'économie et dans, on l'a compris, dans la vie de chacun, vous avez décidé, vous et toute une série d'économistes, de chercheurs, de tout poil, de lancer une pétition une pétition qui est en ligne ce jeudi et qu'on peut consulter sur le site web www.stop-finance.org. Et j'ai le texte de cette pétition, c'est ça qui nous intéresse, c'est que vous commentiez, mon cher professeur Lordon, le court texte de cette pétition qui s'intitule « Spéculation et crise, ça suffit » et qui a pour objet principal, si j'ai bien tout lu ce texte, l'abrogation de l'article 56 du traité de Lisbonne, le tout frais traité de Lisbonne qui vient de passer. Car cet article 56 du traité de Lisbonne, qui interdisant toute restriction à ses mouvements, offre au capital financier les conditions de son emprise écrasante sur la société. Bon, explication.
À partir du moment où se profile la perspective, que ce soit le contribuable qui règle les ardoises, et plus seulement les agents de la finance qui encaissent douloureusement dans leur compte les moins-values, le paysage politique change considérablement, et là, on est partagé entre deux positions possibles. Et c'est pas facile de trancher d'ailleurs entre les deux, parce que chacune d'elles a du fond. Il y a la première position qui consiste à dire la privatisation des profits et la socialisation des pertes, merci, maintenant c'est assez, ça suffit.
Mais c'est ce qui se passe pourtant.
Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe parce que la position exactement antagoniste, qui ne manque pas d'arguments non plus, consiste à dire, mais nous n'avons pas d'autre choix. Nous n'avons pas d'autre choix que l'intervention des pouvoirs publics. On peut bien attendre qu'émergent spontanément les solutions de marché, comme le disent frénétiquement les plus libéraux des libéraux américains, ou comme le disait d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, l'inénarrable communiqué de la réunion des Européens qui avait eu lieu à Londres le 29 janvier. Nous faisons confiance aux solutions de marché. Sauf que attendre que ces solutions de marché émergent spontanément, c'est le passeport pour la déconfiture complète, c'est le passeport pour le désastre, et pour des raisons très profondes. C'est parce que le marché en général, et le marché financier en particulier, est absolument incapable de rattraper ses propres instabilités. Pour une raison simple, c'est que chacun ne poursuit que ses intérêts individuels et personne ne se sent en charge des intérêts collectifs. Alors, on pourrait bien dire une chose comme, qu'à cela ne tienne. Laissons-les tous se casser la margoulette, et ça sera bien fait pour eux. À ceci près que, dans l'univers particulier qui est la finance, le cassage de gueule collectif, c'est l'équivalent de ce qu'est dans l'industrie nucléaire le syndrome chinois, c'est l'accident majeur. Parce que la finance a ceci de particulier que les défauts s'y propagent de manière foudroyante et qu'il suffit qu'il y en ait un petit peu important qui tombe pour que plein d'autres tombent juste autour de lui, qui en font tomber plein d'autres juste autour d'eux, etc. etc.
On en est là aujourd'hui ?
Alors, on doit commencer à s'en approcher sérieusement si l'on en juge de l'urgence avec laquelle la Réserve fédérale est intervenue pour sauver Bear Stearns, dont nous parlions tout à l'heure. Et il faut bien voir qu'elle a de sacrées raisons de craindre un événement de ce genre, parce que, encore une fois, le collapsus financier général, ce qu'on appelle le risque de système, ça met en panne l'économie tout entière, mais quasiment instantanément, puisque ça interrompt tous les flux de crédit. Bon. Alors, entre ces deux positions, est-ce qu'on peut tenir une moyenne? Moi, j'aurais tendance, effectivement, à plaider pour une position intermédiaire, mais peut-être plus proche de la seconde, quoique pas insensible au coup de colère de la première. Alors, plus proche de la seconde, parce que, une fois de plus, le risque systémique est une perspective tellement énorme qu'il est impossible pour n'importe quel pouvoir public de la contempler sans rien faire. Bon, ça c'est sûr. D'une manière ou d'une autre, les États vont devoir intervenir. Alors, j'ai dit d'une manière ou d'une autre, ça veut dire qu'il y en a plein de possibles, et qui sont différentes, avec des effets différents, etc. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une chose qui est insupportable, c'est le plan de sauvetage public, mais inconditionnel. Et là, quand même, j'aimerais vous rappeler ce qui se passait à l'époque d'un autre ou d'autres sortes de sauvetage, dont on n'entend plus trop parler actuellement, mais qui défrayait la chronique il y a quelques années encore, lorsque le FMI intervenait pour sauver la mise des pays du Sud. Et qu'il assortissait ses concours financiers de ce qu'on appelait une conditionnalité, héritée d'une extrême sévérité. Le FMI disait très carrément à ses interlocuteurs, on vous prête, on vous sauve la mise, mais vous allez voir toute la portion. Et nos réformes, vous allez les faire et jusqu'au bout. Et s'il n'y a pas ajustement structurel dans les grandes largeurs, vous n'aurez pas un dollar. Et à côté de ça, comparons nos modernes banques d'affaires américaines. D'abord, quand tout va bien, elles n'ont pas de mots assez durs à propos de l'État. il est obèse, il est impécunieux, il est archaïque, hein, c'est du Jacques Marseille dans le texte. Et puis quand tout va mal, ça pleure beaucoup, ça crie maman, et ça se précipite dans le giron de l'État pour demander son secours. Et puis quand l'accident est passé, au revoir et merci, hein, et bonjour à votre dame. Et c'est fini. Alors ça, et le pire, si vous voulez, c'est que tous les 4 ans ou tous les 5 ans, ça recommence, cette salade. On les tire de la mouise et c'est reparti pour un tour exactement à l'identique. Alors ça, en effet, ça n'est plus possible. Alors, moi, je pense que c'est là que se joue vraiment le problème. C'est-à-dire, ok, on va vous tirer de là, très bien, parce qu'on ne peut pas faire autrement et parce qu'on a bien compris que votre naufrage sera dans pas longtemps le nôtre. Mais ça ne sera pas sans condition. Et la condition, c'est que maintenant, on change tout. Donc la finance déréglementée, on a eu suffisamment de temps pour voir comment ça marchait, et puis surtout pour voir comment ça marchait pas. Donc maintenant, ça c'est fait, et on sait surtout que le germe de la crise est inscrit dans les mécanismes les plus fondamentaux de la finance déréglementée. Par conséquent, la contrepartie du plan de sauvetage de la finance privée, c'est on change toutes les règles du jeu. Mais pour produire, pour livrer un grand deal pareil, évidemment, il faut une impulsion politique. D'où l'idée de la pétition, en effet. Alors, la pétition, elle est lancée par un collectif d'économistes européens. Il est inutile de dire que nous n'avons pas l'ambition de rester entre nous économistes. Je ne pense pas, mais enfin je le dis quand même. Donc cette pétition est adressée à tous. Elle est adressée à tous les citoyens européens, je le redis, c'est une pétition européenne. Elle est adressée aussi à toutes les organisations politiques, syndicales, associations, tous ceux qui voudront la reprendre et la diffuser. Européenne par ses signataires, elle l'est également par les médias qui ont décidé de la publier et de la relayer. 9 titres nous accompagnent, dont 5 ne sont pas français. Alors je commence par la France, forcément. Je commence surtout par le média de masse, c'est-à-dire l'émission à rayonnement planétaire. Donc là-bas, si j'y suis, il fait partie de bien descendu. Hein.
Oui, c'est ça, tout à fait.
C'est exact. Hein. Il y a l'humanité, il y a politique, il y a le monde diplomatique. À l'étranger, il y a le Tagus Zeitung allemand, il manifesto italien. Publico, espagnol, Tribuna Robotnicka, polonais, et Flamman, qui est suédois. Et cette pétition, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, elle ne se contente pas de dire « Ah, une fois de plus, la finance est par terre, nous ne sommes pas contents ». Elle indique un objectif. Et qu'est-ce que c'est que cet objectif?
Et c'est bien, que régulièrement, on vous dit, quand vous parlez comme vous le faites depuis le début de cette émission,
« Mais qu'est-ce que vous avez à proposer ?»
Oui, concrètement, quoi?
Alors, avant d'être concret, un petit peu plus général, l'objectif, c'est de reprendre le contrôle politique des structures de la finance. Et en effet, contrairement à ce qu'on dit assez souvent, nous commençons à avoir quelques idées sur cette question. Mais ce sont des idées techniques, et on ne fait pas une pétition avec des idées techniques. On ne va pas commencer à parler dans un texte qu'on veut livrer à tous les citoyens de la tuyauterie des taux d'intérêt, ou des mécanismes fiscaux d'écrêtement du profit actionnarial, etc. Donc il fallait qu'on choisisse un objectif intermédiaire, un objectif qui soit très politique, assez général, mais assez précis quand même. Et il y en a un qui s'est imposé très vite. C'est l'article 56 du traité européen consolidé. Et qu'est-ce qu'il dit, l'article 56? Il dit la chose suivante. Il dit, toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Alors, je traduis, les capitaux financiers sont absolument libres de faire ce qu'ils veulent, et nous, Union Européenne, nous ne laisserons personne toucher à cette splendide liberté-là. Et bien précisément, nous, qui ne sommes pas l'Union Européenne, mais qui sommes ses citoyens, nous avons une folle envie d'y toucher. Et pour une raison tout à fait simple, et à mon avis très forte, c'est que l'abrogation de cet article 56 est le préalable à tout projet politique de reconstruction des structures de la finance. Et donc, on ne peut pas faire autrement que d'en passer par là. Voilà, c'est ça notre objectif.
Donc vous voulez revenir au temps du protectionnisme et de l'économie contrôlée.
Voilà, et de la marine à voile. Absolument. Mais c'est ça qui est formidable dans le débat tel qu'il est fixé actuellement. On n'a pas le choix, on a le choix contre le capitalisme tel qu'il est et la Corée du Nord. Il faudrait être un peu raisonnable et redevenir capable d'imaginer qu'il peut y avoir des tiers-termes entre ces deux extrêmes. Et ça n'est finalement pas autre chose que ça, hein, que cette pétition nous propose d'envisager. Et franchement, je vous en donne l'idée, le ressort véritable, et je pense que je ne suis pas seul à le partager. Moi, j'en étais malade à l'idée que cette crise, avec le temps, finirait par se résoudre. Ça finira par se passer, cette affaire. Bon, comme toujours, avec son tribut de récession, de chômage, etc. Et puis, qu'aussitôt après, le carousel allait repartir pour un tour. C'est reparti comme en 40, hein. Je veux dire, en voiture Simone, vers la prochaine bulle, le prochain crack, tout pareil, sans rien changer. Alors ça c'est vraiment, c'est tout à fait insupportable. Alors, il y a aussi un espoir, malgré tout, pas seulement un affect de colère qui est porté par cette pétition. L'espoir, ce serait que cette question de la réglementation financière soit enfin installée très haut dans les agendas politiques des organisations de gauche, que tout ça, il faudrait que tout ça également, que ça devienne une espèce de ritournelle entêtante. Hein. Il faudrait, voilà, en permanence, il faudrait que ça fasse partie du débat public, il faut que ça s'installe dans notre paysage de revendication politique permanent, et même que ça y soit au premier plan. Parce que je ne suis pas complètement idiot, je sais que la politique, ça prend du temps, hein. Les structures de la finance, hein, elles seront les mêmes vendredi, hein, un jour après le lancement de la pétition. Je ne me fais pas complètement des illusions. Je sais que la politique, ça fonctionne à la répétition et à l'obstination. Bon, pas de raison de plus pour commencer tout de suite.
J'ai une dernière question. Ouais. Aujourd'hui, on voit bien la mobilisation des banques centrales pour venir en aide à des banques dont on craint qu'elles ne soient en faillite. Or, je me souviens d'un homme politique français qui récemment expliquait qu'il était à la tête d'un État qui lui-même était en faillite. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que des banques centrales ou que d'autres organismes comme ça viennent en aide à des États en faillite pour, je ne sais pas, combler le trou de la sécu, combler le trou des retraites, pour revoir la dette des pays du Sud. Par exemple, toute cette solidarité, tous ces bons gars qui se donnent la main aujourd'hui et qui ne pourraient pas se la donner pour d'autres causes que celle du renflouement de banques privées.
Joker. Je ne réponds pas à cette question, elle est tellement énorme. Donc là, en 5 minutes, je ne réponds pas là-dessus.
C'est bien, Renaud.
Ouais, c'est pas mal d'entrée. Hein. Non, mais bon, donc, bon.
Il y a du monde de toutes les deux.
Ouais. Et bien oui, Renaud Lambert, c'est exact.
Voilà, vous avez compris, la pétition, c'est spéculation et crise, ça suffit. Et vous pouvez la trouver sur www.stop-finance.org. Une émission avec Renaud Lambert, et c'était Frédéric Cordon qui causait tout le temps. À lire l'article de Frédéric Cordon, crise financière n'en tient aucune leçon dans le monde diplomatique de son massif. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission à la base du suivi. La pétition est en ligne également sur la-bas.org, évidemment la-bas.org. À la technique, Philippe Duclos est sans